Bonjour mes chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la reconnaissance de la Palestine par l'ONU. Lorsqu'au mépris de toutes les promesses qui leur avaient été faites par les Anglais, la Palestine a été divisée en 1947. La partie la plus riche fut attribuée à la minorité juive et la plus aride aux Arabes. Bien évidemment, ceux-ci ne furent pas consultés. C'est ça la démocratie. Immédiatement, les sionistes commencèrent par chasser les Arabes des territoires qui leur avaient été attribués. Ils les chassèrent ou ils les tuèrent, comme a dit Yassine. Tout cela fut fait suivant un plan méthodique, le plan d'Alet, dont a parlé Ilan Pappé dans son livre « L'épuration ethnique de la Palestine ». C'est un excellent ouvrage que je ne saurais trop vous recommander. Les Israéliens profitèrent de la guerre de 1948 pour s'emparer de terres qui auraient dû revenir aux Palestiniens. Puis, ils profitèrent aussi de la guerre de 1967, où ils mirent carrément la main sur la Cisjordanie, sur Jérusalem-Est, sur le Golan et sur le Sinaï. Ils rendirent ce territoire à l'Égypte après la guerre de 1973, mais pour le reste, au mépris de toutes les résolutions de l'ONU, ils décidèrent soit l'annexion, comme Jérusalem par exemple, soit l'occupation, comme pour la Cisjordanie. À la suite des accords d'Oslo en 1993, la Cisjordanie et Gaza auraient dû devenir le siège d'un futur État palestinien. Mais peu après la guerre de 1967, les sionistes avaient commencé à coloniser la Cisjordanie et Jérusalem-Est. À Gaza, ils essayèrent d'en faire autant. Mais cette tactique échoua, car il n'y eut jamais plus de 15 000 colons perdus au milieu d'1,5 million de Palestiniens. Sharon décida donc en 2005 de retirer ses occupants, tellement la situation était ubuesque. Depuis, Gaza est devenu un camp de concentration. Les Israéliens veulent dégoûter les Palestiniens d'y vivre afin de les contraindre un jour à partir. En Cisjordanie et à Jérusalem-Est, les Israéliens ont adopté une autre méthode. Ils ont livré ces territoires à des Juifs religieux fanatiques se sont emparés des meilleures terres en invoquant leurs droits donnés soi-disant par Dieu à posséder ces régions. Tout cela relève du fantasme et de l'escroquerie, mais peu importe, ils ont toujours été soutenus par les États-Unis et spécialement par les fondamentalistes chrétiens prétendus évangélistes. En 1993, il y avait 260 000 colons à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Il y en a aujourd'hui plus de 500 000. La majeure partie de ces colonies ont été annexées de facto à Israël. Les autres réduisent le territoire palestinien à des bantoustans isolés les uns des autres. Ceci représente au total 22% de l'ancienne Palestine mandataire. On comprend donc pourquoi Mahmoud Abbas exige l'arrêt de toute construction avant de négocier avec Netanyahou. Et pourquoi celui-ci s'y refuse? En effet, plus la situation dure et plus les sionistes grignotent le territoire, bientôt, il n'y aura plus rien à négocier. Devant tant de mauvaise foi, et après avoir tout essayé, Mahmoud Abbas a décidé de recourir à l'ONU. En effet, si celle-ci reconnaissait la Palestine comme 194e État, les exécutions constantes de Palestiniens seraient considérées comme des actes de guerre. Et des sionistes qui se permettent de faire n'importe quoi en Cisjordanie seraient réduits au rang de citoyens comme les autres. C'est bien cela qui ennuie les Israéliens. On a vu que dès que Mahmoud Abbas a parlé de porter la question devant l'ONU, la diplomatie de Tel Aviv a fait tout ce qu'elle a pu pour saboter cette initiative, surtout auprès des membres non permanents du Conseil de sécurité. On sait en effet que l'Assemblée générale, où siègent tous les États, n'a aucun pouvoir. Celui-ci est concentré entre les mains du Conseil de sécurité, qui comprend les 5 permanents, États-Unis, Grande-Bretagne, Russie, Chine et France, et 10 membres élus par les autres. Le scandale réside déjà dans le fait que l'Inde, l'Indonésie, le Brésil, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Japon et l'Allemagne ne fassent pas partie à titre permanent de cet organisme, dont les statuts sont figés depuis l'après-guerre. Les 5 membres permanents disposent d'un droit de veto. C'est ainsi que les États-Unis ont menacé d'utiliser ce droit au cas où 9 voix se dégageraient au Conseil de sécurité en faveur de la reconnaissance de l'État palestinien. C'est là où l'on voit que la première puissance du monde est en fait une colonie d'Israël. En attendant le vote à l'ONU, la Palestine a posé sa candidature à l'UNESCO. Déjà 40 pays ont voté en sa faveur. Immédiatement, les États-Unis ont menacé de suspendre leur contribution qui se monte à 20% du budget global de cet organisme. Hillary Clinton a d'ailleurs déclaré « Je crois que voter la reconnaissance de la Palestine est un procédé tout à fait étrange et je conseillerais à l'UNESCO d'y réfléchir encore. » C'est une claire menace. À l'ONU comme à l'UNESCO, les Américains, qui sont les échos fidèles de la voix de leur maître, les Israéliens, ont déclaré que la seule méthode pour parvenir à la paix passait par la voie de la négociation. Alors que celle-ci, on le sait bien, ne mène nulle part. Mais il faut bien amuser la galerie en attendant que les Israéliens aient grignoté toute la Cisjordanie. On remarquera dans toute cette histoire l'absence quasi totale du quartet et de l'Europe en particulier. La France a proposé que la Palestine ait un statut d'observateur, comme le Vatican, ce qui est absurde, d'autant que Paris exige que les Palestiniens renoncent aux droits conférés par ce statut de poursuivre les responsables israéliens devant la Cour pénale internationale. Espérons que la résistance palestinienne aura raison de tous les obstacles posés par les américano-sionistes et par leurs alliés objectifs, les Européens, et qu'elle arrivera à son but réel, un seul État pour 2 peuples. Au mois prochain, mes chers auditeurs, et à bientôt.